Bonsoir, province du Nord Kivu. Situation tendue ce lundi 5 avril dans les villes de Beni et Butembo à la suite des manifestations projetées par les groupes de pression ainsi que les mouvements citoyens pour réclamer le retour de la paix dans la région. Certaines associations locales avaient appelé ce week-end la population à la désobéissance civile et à s'attaquer au personnel de la MONUSCO, des agences du système des Nations Unies et des ONG internationales pour ainsi troubler l'ordre public dans les deux villes. Cependant, plusieurs autorités locales et provinciales ont mis en garde contre ces menaces. Quelle lecture faire de cette situation? Comment amener les acteurs politiques et sociaux à contribuer à la pacification de l'Est en appuyant les FRDC et la MONUSCO? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 5 avril 2021. Participe au débat Karline Zanzou Kassivitsa, gouverneur de la province du Nord Kivu. Monsieur le gouverneur, bonsoir.
Bonsoir.
Edgar Matesso, vice-président de la coordination de la société civile du Nord Kivu. Edgar Matesso, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir aux auditeurs, bonsoir au gouverneur.
Alors nous attendons notre troisième invité qui va nous rejoindre dans un tout petit moment. Vous êtes très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Christian Babunga Mutimanoa depuis Bukavu Sud Kivu. Cette situation est la conséquence des massacres dont sont victimes la population de la région de Beni Butembo. Le gouvernement congolais ainsi que la MONUSCO devraient tout mettre en œuvre pour mettre fin à ces atrocités à Butembo, Nord Kivu. Vous nous suivez sous la 92.9 et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
À Beni, au Nord Kivu, les activités socio-économiques paralysées ce lundi à la suite des manifestations projetées par les groupes de pression ainsi que les mouvements citoyens pour réclamer le retour de la paix dans la région. Les dispositifs des forces de sécurité étaient visibles dans plusieurs coins de la ville. Marc Marofimbo nous décrit la situation.
Pour ce lundi matin, la ville s'est réveillée dans la psychose de la manifestation projetée par certains groupes de pression actifs dans la région. Dans les quartiers Mongolio et Gangaimbi, des jeunes manifestants ont tenté sans succès d'interdire les habitants d'évacuer à leurs occupations. Dans les centres commerciaux de Matongé, le long du boulevard, des commerces sont restés fermés, sauf certaines officines pharmaceutiques et certaines alimentations. Au marché central de Kilokwa, certaines vendeuses de vivres ont pu sortir leurs étals et les populations se sont précipitées pour se ravitailler. Plusieurs écoles de la ville, elles, ont renvoyé les élèves à la maison pour des raisons de sécurité. Dans certaines cellules des quartiers Kalinda, par exemple, les élèves ont été par contre chassés de leur salle de classe par les manifestants qui ont commencé par jeter des cailloux sur la toiture des écoles. Les manifestants qui disent manifester pour un retour de la paix dans la région avaient appelé depuis quelques jours via les réseaux sociaux à un soulèvement contre la MONUSCO, les humanitaires et les agences des Nations Unies implantées dans la région. Notez que le maire de la ville en intérim avait interdit toute manifestation dans la ville visant à troubler l'ordre public. Il a évoqué l'infiltration des hommes armés dans la ville. Signalons que les forces de l'ordre sont jusque-là visibles dans les endroits stratégiques de la ville, empêchant toute tentative de trouble à l'ordre public. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Même situation à Butembo, toujours dans la province du Nord Kivu. Les activités socio-économiques sont restées paralysées ce lundi. C'est suite à l'appel lancé par les mouvements citoyens et quelques organisations locales afin d'observer 10 jours sans travail en vue de dénoncer les massacres des Beni. Depuis Butembo, retrouvons Sadiki Aboubakar qui nous fait le point.
Les activités sont quasiment paralysées au niveau du centre commercial. Le marché central n'a pas ouvert. Toutes les galeries de commerce, magasins et échoppes sont fermées. Les banques, maisons de communication, supermarchés, stations-service, agences de voyage, écoles et universités le sont aussi. La circulation est restée timide sur le boulevard Président de la République, principale artère de la ville. Quelques mototaximens sont visibles et prennent les rares clients à des prix forfaitaires. Entre-temps, des militaires et policiers sont déployés dans tous les coins stratégiques de la ville en vue de parer à toute éventualité. Dans l'avant-midi, quelques barricades avaient été placées à certains endroits. C'est notamment à Fourou, au nord de la ville, où des manifestants ont brûlé des kiosques et pneus sous l'artère principale. Les forces de l'ordre ont réussi à dégager la route sans tirer un coup de balle, affirme des témoins. Cependant, quelques policiers ont été blessés par des projectiles, rapporte la même source. Nous n'avons pas réussi à joindre le commandant intérimaire de la police nationale à Boutembo pour avoir la situation générale de la ville. Pour ce qui est de la paralysie des activités économiques, tous nos efforts pour avoir la réaction de la Fédération des entreprises du Congo FEC n'ont pas abouti. Boutembo, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Karline Zanzou Kiasivita, gouverneur de la province du Nord Kivu, situation tendue ce lundi dans les villes de Beni et Boutembo à la suite des manifestations projetées par les groupes de pression ainsi que les mouvements citoyens pour réclamer le retour de la paix dans la région. Quelle lecture vous faites de cette situation?
Oui, madame, je voudrais d'abord saluer mes co-débatteurs de ce soir. Leur souhait était un bon lundi pascal, mais aussi présenter mes compassions à toutes les victimes de la barbarie humaine perpétrée par les groupes armés dans ma province, spécialement à Beni, les Adef Nalou, qui tuent ma population dans presque tous les villages du secteur de Benimbaou, mais aussi dans le secteur de Rwenzori. La question du retour de la paix, c'est une question non négociable pour tout le monde, y compris le président de la République qui se donne jour et nuit pour que la paix et la sécurité puissent revenir à l'est de la République démocratique du Congo, spécialement à Beni. À ce niveau-là, nous n'avons pas de point de vue divergent avec ceux qui souhaitent que la paix puisse revenir le plus vite possible, y compris les groupes de pression qui démocratiquement ils manifestent. Mais néanmoins, il faut, comme je l'ai toujours dit, considérer l'ampleur de la vulnérabilité de cette région. Et au niveau du gouvernement provincial, nous avons eu à demander aux organisateurs des manifestations d'éviter de tomber dans les stratégies communicationnelles de l'ennemi qui veut voir cette région de la République souffrir, qui veut voir l'économie de cette région s'effondrer parce qu'il s'attaque non seulement aux civils, mais aussi à l'économie. Il y a quelques jours, il y a quelques semaines, vous avez vu qu'ils avaient brûlé des véhicules tout au long au cours de la route Beni Kasindi. Mais aussi, ils s'attaquent à toutes les vies humaines qui trouvent dans les chats de Beni et si créer la panique et si permettre que l'économie de Beni, qui est basée essentiellement sur l'agriculture, puisse s'effondrer. C'est la raison pour laquelle nous pensons que, au-delà de l'affliction que nous avons, au-delà de la peine que nous avons, il y a lieu de mûrir les stratégies aux côtés des services de défense et de sécurité, mais aux côtés des institutions de la République. C'est pourquoi nous avons toujours appelé à la sérénité dans la recherche de la paix et éviter les dégâts collatéraux de toutes les manifestations publiques.
Alors, vous avez appelé les jeunes de la partie du Grand Nord au calme et à la retenue, mais surtout à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, hein, comme vous venez de le dire, qui cherche à déstabiliser la province. Il s'agit de quel ennemi, monsieur le gouverneur?
Comme vous le savez, nous avons les Adef Nalou qui sont dans la partie nord de Beni, du Nord Kivu plutôt, spécialement à Beni, qui connaissent la région, qui ont été là depuis très longtemps et qui ont observé le comportement de la population. Ils ont toujours utilisé comme stratégie l'agitation et chercher à opposer la population civile aux forces armées de la République, aux services de sécurité, pour permettre que les FARDC soient dans une pression de la population et si continuer à perpétrer les massacres. Et on a vécu cette situation vers 2019. Même avant ça, toutes les fois qu'ils veulent amplifier les tueries, ils utilisent les stratégies communicationnelles dans le sens d'opposer la population civile au FARDC. Et on a vu, en 2019, le massacre s'est rapproché de la ville de Beni, mais aussi pratiquement dans la ville de Beni. C'est la raison pour laquelle nous avons, au niveau du gouvernement provincial, rappeler la jeunesse du Nord Kivu, rappeler la jeunesse de Beni et de Butembo, d'éviter de tomber dans leur stratégie, parce que leurs stratégies sont déjà connues et documentées par les services de sécurité.
Monsieur le gouverneur, certains leaders de ces mouvements citoyens et groupes de pression disent que s'ils appellent la population à manifester, c'est parce qu'ils ont l'impression que le gouvernement ou les autorités ne font pas suffisamment d'efforts pour que la paix revienne dans cette partie du pays.
Je crois qu'à un moment donné, il faut distinguer les manifestations pacifiques avec les actes de sabotage de l'autorité de l'État. Je suis d'accord avec ceux qui manifestent. On a vu aujourd'hui quelques manifestants, une vingtaine de manifestants de la Lucha qui ont été accompagnés par la police pour aller déposer leur mémo. À ce niveau-là, on ne peut pas discuter. Mais si on voit déjà, si oblige et les populations civiles et les enfants de l'école de fermer leurs écoles tout simplement parce qu'ils n'ont pas suivi leur mot d'ordre, je crois que c'est autre chose. Parce qu'en fait, leur liberté s'arrête là où la liberté des autres commence. Je crois que c'est ça aussi la démocratie. Il faut respecter les opinions des autres, il faut respecter les droits fondamentaux des autres citoyens qui ne réfléchissent pas comme eux. Nous connaissons que la situation dans laquelle la population vive dans ma province du Nord Kivu, surtout à Beni, c'est une situation qui crée un désespoir. Mais je peux vous confirmer aussi que ça fait plus de 7 ans que nous sommes sur la question de la guerre des Andes Nalu, la guerre active. L'armée n'a jamais baissé les bras. L'armée fournit les sacrifices, même on peut perdre de certains éléments de l'armée. Nous sommes un État, nous devons maintenir les efforts et c'est ensemble que nous pourrions arriver à résoudre cette question de sécurité dans notre province.
Alors, monsieur le gouverneur, plusieurs voix s'élèvent aujourd'hui pour dire que certains fils du Grand Nord s'est réimpliqué dans cette situation que vit cette partie du pays. Aujourd'hui, comment vous répondez à ces gens-là?
Moi, j'ai toujours dit à haute voix que nous devons éviter la généralisation dans tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Comme dans toutes les guerres au monde, on peut trouver des complices, on peut trouver des collabos, on peut trouver tout ce qu'on peut dire, comme on le dit, les espions. C'est la guerre qui se passe à Beni, qui se passe au Nord Kivu, ne déroge pas aux règles générales connues pour les guerres au monde. Et je crois que ce qui est plus important, je l'ai toujours dit, que la République démocratique du Congo puisse considérer que nous sommes attaqués à partir de Beni et que tous les efforts soient concentrés sur cette question du terrorisme qui est en train de s'implanter du jour au jour dans notre région. Commencer la stigmatisation, la généralisation, je crois qu'on pourra perdre les indices. Mais ce qui est vrai, je l'ai toujours demandé et nous le faisons comme autorité publique, c'est d'enquêter sérieusement sur les indices que nous pouvons avoir et ainsi activer la justice. Vous savez, on ne peut pas faire la paix, la sécurité sans justice. À ce niveau-là, s'il y a des indices qui peuvent nous amener à des preuves tangibles, il faut que l'appareil de la justice puisse s'actionner et ainsi condamner ceux qui peuvent être des collaborateurs des adeptes Nalu. Mais aussi, il faut dire que la question de la sécurité, c'est pas seulement les adeptes Nalu. Il y a des jeunes Congolais qui sont dans les groupes armés locaux. C'est à ce niveau que nous pensons qu'il faut appeler à la conscience collective pour que les gens puissent comprendre qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui de continuer à considérer que les groupes armés locaux puissent nous ramener la sécurité dans notre province, aussi à l'est de la République démocratique du Congo.
Merci, monsieur le gouverneur. On vous garde dans cette émission le temps de donner la parole à Boris Maelezo, député national honoraire élu du territoire de Beni au Nord Kivu. Monsieur Maelezo, bonsoir.
Bonsoir à tout le monde au
co-débatteurs. Je salue aussi en passant le gouverneur du Nord Kivu, monsieur Karlin Zanzu Kasivita. Je salue aussi tous les auditeurs de la radio Kapi.
Boris Maelezo, la situation était tendue ce lundi dans les villes de Beni et Butembo à la suite des manifestations projetées par les groupes de pression ainsi que les mouvements citoyens pour réclamer le retour de la paix dans la région. Certaines associations locales avaient appelé le week-end la population à la désobéissance civile, à s'attaquer au personnel de la MONUSCO, des agences du système des Nations Unies et des ONG internationales pour ainsi troubler l'ordre public dans ces deux villes. Comment vous analysez cette situation?
Écoutez, madame, la situation qui prévaut aujourd'hui dans les Nord Kivu, spécialement aussi dans les Grands Nord, comme on a toujours appelé ça, donc Beni-Lubero, la situation est intenable. Et la population est au bout de leur espoir. Donc c'est pour vous dire que tous ces ajustements-là que nous sommes en train d'assister aujourd'hui, c'est que la population a perdu complètement l'espoir. Mais en perdant cet espoir-là, nous, comme acteurs politiques, nous sommes des responsables, on ne peut pas quand même dire que quand on perd l'espoir, on est permis à faire tout. Non. Nous avons plusieurs manières de pouvoir réclamer nos droits auprès de l'État, et je pense que c'est dans la non-violence qu'on peut le faire et atteindre les objectifs. Ce qui s'est passé aujourd'hui avec les jeunes gens de la lucha, des groupes qui sont en train d'organiser pour pouvoir porter haut ce que les autres sont en train de dire bas, c'est pour dire que l'ensemble de la population, c'est pour dire que l'État, normalement, doit prendre ça au sérieux et pouvoir trouver des solutions. Puisque, quand même, cet endurant en train d'égorger les gens, et quand vous voyez réellement ce qui se passe, vous dites non, ça on n'a jamais assisté ça nulle part. Et que donc, ça se passe quand même, en tout cas, aux yeux de tout le monde. Moi, quand je regarde, par exemple, un enfant qui continue à allaiter sa maman qui est déjà morte, moi, je me dis, mais cet enfant-là, elle va grandir avec quelle morale? Et les autres enfants qui voyaient ça, parce que quand on tue normalement, c'est tout le village qui est mobilisé. Et quand on va aller récolter les cadavres, c'est presque tout le monde qui va aller là-bas, et les enfants et les adultes voient ce qui se passe. Et donc, c'est un traumatisme, en tout cas, c'est un traumatisme compliqué, et que donc la population n'a plus d'espoir, et que donc tout ce que nous disons, en tout cas, la population aimerait beaucoup écouter que nous leur montrons que les actions qui sont en train d'être de mener sur le terrain réellement les donnent l'espoir de dire que en tout cas aujourd'hui peut-être c'est le dernier massacre. Alors moi je suis en train de dire que l'État congolais est responsable et que donc la population doit continuer à réclamer ce droit là auprès de l'État congolais, mais pas dans la violence. Quand nous regardons l'implication de tout le monde, nous regardons la FRDC aujourd'hui, qui se bat en tout cas aux côtés des autres forces comme la MONUSCO qui se trouve dans le même milieu, je me dis que c'est quand même catastrophique. 7 ans, avec ce groupe de militaires qui sont là, avec en tout cas le déploiement des casques bleus qui est dans le Nord Kivu, c'est vraiment en tout cas intolérable. On n'a pas d'excuses et la population a le devoir de pouvoir nous demander en tout cas de pouvoir restaurer la paix, en tout cas et la sécurité et la quiétude dans cette région-là.
Vous, donc, en tant qu'acteur politique, Boris Maelezo, en tant qu'acteur politique, comment vous contribuez au retour de la paix dans cette partie du pays? Qu'est-ce que vous faites?
En tout cas, moi, quand j'étais encore au Parlement, j'étais dans toutes les missions que le Parlement a dû diligenter pour aller essayer de comprendre le contexte de la situation sécuritaire dans les territoires de Beni. Et je suis parmi les gens parmi les députés, le rare député qui ont fait le premier rapport aujourd'hui, qui est le rapport de référence presque à toutes les analyses, à tout le rapport qui se base sur ces rapports-là. Donc moi, je pense que de l'autre côté, nous continuons à sensibiliser la population, à se dire non, nous n'avons pas quelqu'un d'autre qui peut nous ramener la paix, si ce n'est que l'État congolais qui est responsable de pouvoir nous protéger, nous tous. Nous continuons à démobiliser par nos actes ou par nos conseils auprès de la jeunesse. Nous leur disons,
ce n'est pas... Mais apparemment, cette jeunesse ne vous écoute pas.
Mais écoutez, ce n'est pas dire que c'est comme si nous mettons du sel dans l'eau, où vous allez directement déguiser et comprendre que, en tout cas, le sel a pris. Non, c'est un travail, c'est un processus, puisque la paix, c'est vraiment un processus. On ne peut pas décréter la paix, sinon on décréterait déjà la paix dans les territoires ni dans ses environs. Mais aujourd'hui, donc, si la population, vous voyez par exemple l'engouement aujourd'hui, si vous aviez dit ça au début des massacres en 2014, 2015,
2016. L'engouement n'est pas comme aujourd'hui. C'est pour dire qu'il y a quand même les gens qui comprennent que la guerre ne se décrète pas. On ne peut pas dire que plus on a chassé tel, ou bien on a demandé tel à pouvoir partir, et aujourd'hui que la paix va revenir. Non, nous devons nous mettre nous tous ensemble et surtout avoir la même vision. Parce que quand il y a la paix, et moi j'ai toujours dit que quand les ADF arrivent dans un village, ils ne posent pas la question à savoir qui on va tuer, qui on va tuer. Et c'est pour dire que nous tous, et la population et les dirigeants, et aussi nous les acteurs politiques, nous devons avoir la même vision et la même compréhension du problème. Et le même, la même compréhension du danger qui guette la population et nous tous. Puisque si nous sommes en train de pouvoir dire à la population, par exemple, ceux qui pensent que les groupes armés peuvent arriver à nous aider à nous sortir de cette situation-là, moi je me pose la question, je suis des bénis. Je n'ai jamais vu, ou bien à un seul instant, où j'ai attendu qu'un groupe tel s'est attaqué aux ADF. Et qu'ils en ont tué quatre, ou bien ils en ont pris quatre en otage, et qu'ils sont en train de progresser vers Madina ou vers partout là-bas où se fait la guerre. Non. Ces gens-là sont là-bas, et ils compliquent la situation davantage. Pendant que l'FADC est en train de se battre contre les ADF, et derrière, il y a d'autres qui tirent sur eux. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, nous disons que c'est pour cela que nous apprécions le travail des SRDC, puisqu'à ce moment-là, il pourrait y avoir des découragements. Puisque les gens, ou soit les groupes armés qui les attaquent de derrière, sont beaucoup plus nos enfants du millier. Le maïmaï qui se crée dans le milieu et qui continue à faire du mal.
Alors, on vous accuse justement, vous, acteurs politiques, de souffler le chaud et le froid.
Mais écoutez, moi je ne suis pas de ceux qui aiment seulement accuser. Moi je pense que la force est toujours à l'État. La force est à l'État. L'État ne peut pas pleurnicher devant, par exemple, Boris, si on l'a trouvé qu'il est, il est en train d'entretenir des trucs pareils, qui est en train d'embellir la République, et on peut seulement l'inciter pour dire que vous êtes en train d'entretenir ceci, sortez du groupe des armées, ça c'est vraiment un cri de défaillance. Et l'État ne peut pas en tout cas continuer à nous gérer comme ça. Si par exemple nous avons des indices qui démontrent que tel ou tel est impliqué dans ces massacres-là, moi je pense que la justice est là. Notre État ne peut pas pleurnicher devant de telles personnes. La violence appartient à l'État. Pourquoi ne pas prendre la personne et le mettre devant son juge naturel? Et pour que ça puisse donner de la leçon quand même aux autres qui pouvaient continuer à s'en sortir comme ça. Mais moi, quand j'attends qu'on acquise et ça se termine comme ça, et tel autre est acquis et ça se termine comme ça, et bon, donc, qu'est-ce que nous allons arriver à faire maintenant? Donc, moi, j'ai le droit de pouvoir créer une milice et je m'attends seulement aux accusations des autorités. Pourquoi ne pas mettre la main sur les personnes impliquées dans ces massacres-là? Je pense que ça peut diminuer quand même aussi l'ampleur des tueries. En tout cas, moi je pense que les autorités ne peuvent pas démontrer leur incompétence et leur incapacité. C'est le masque limitant à citer ou soit à soupçonner les gens en leur disant non, en les accusant peut-être faussement aussi ou bien peut-être avec raison qu'ils sont impliqués dans le massacre.
Boris, qu'est-ce qu'ils en font vraiment de ces informations-là? Boris Maelezo, ces groupes de pression ainsi que quelques mouvements citoyens ont appelé la population à la désobéissance civile, à s'attaquer au personnel de la MONUSCO, des agences du système des Nations Unies, des ONG internationales. Est-ce que c'est la solution pour le retour de la paix dans cette partie du pays?
Mais écoutez, moi je me pose la question de savoir pourquoi la MONUSCO est déployée dans notre pays. L'originalité de la MONUSCO, c'est pouvoir maintenir la paix. C'est ça, non? Ce sont les opérations de maintien de la paix qui sont venues faire dans notre pays. Mais est-ce que vraiment la MONUSCO est en train de maintenir la paix? Puisqu'on maintient quelque chose qui existe, mais il n'y a pas de la paix. Maintenant, la MONUSCO peut nous expliquer, peut-être plus de 20 ans après, et ils sont en train de maintenir la paix ici, par exemple les agriculteurs de Béni. Moi je pense que c'est compliqué. Moi je me dis, la violence ne peut pas nous amener à trouver la solution. Moi, je pense que c'est aussi la responsabilité de notre État de pouvoir discuter le mandat, que ça soit clair. La protection signifie quoi? Le maintien de la paix signifie quoi? Il faut que ce concept-là soit clair devant tout le monde pour que la motion, quand il est déployé ici, qu'il ne puisse pas venir ici nous donner des leçons pour dire, bon, je suis là pour protéger la population pendant que la police est en train de se faire massacrer.
Edgar Mathieu Sauvis, président de la coordination de la société civile du Nord Kivu, votre point de vue sur la situation tendue aujourd'hui dans les villes de Beni et Butembo.
Merci madame. En fait, la situation telle qu'elle se présente mérite beaucoup plus d'attention. Parce que à ce niveau, je voudrais que l'on aborde cette question à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau de l'empathie. Il serait important que la MONUSCO et le gouvernement congolais se placent dans la peau de cette population qui est en train d'être massacrée au jour le jour. Je voudrais rappeler ici que depuis le 2 octobre 2014 jusqu'à nos jours, nous comptabilisons autour de 7000 personnes qui ont été tuées. Et à seulement 2020, nous avons comptabilité environ 1200 personnes. Et seulement depuis janvier jusqu'à mars 2021, on a comptabilisé environ 400 personnes tuées. Et seulement pour le mois de mars passé, on a compté 158 personnes qui ont été tuées. Et nous voudrions ici que chacun puisse voir ses responsabilités. Je viens de suivre l'honorable Maelezo qui était en train de revenir sur la définition même de la MONUSCO. Il s'agit de la mission de maintien de la paix. Malheureusement, on ne peut pas maintenir quelque chose qui n'existe pas. C'est une mission de stabilisation, alors que la région n'est même pas pacifiée pour la stabiliser. Et le gouvernement congolais, justement, devrait voir là également ses responsabilités. Souvenez-vous que le chef de l'État a donné plusieurs promesses en matière de pacification de notre province, de notre entité, la partie Est, le Nord Kivu et l'Ituri. Vous vous rappellerez qu'il a promis qu'à Noël 2020 et bonne année 2021, on fêterait dans la paix. Il est revenu encore à 2020 pour dire, dans quelques semaines, je vais m'installer au Nord Kivu. Tout cela n'est pas encore concrétisé. Et aujourd'hui, la population qui voudrait s'adresser au gouvernement trouve qu'il y a absence de l'État. Et donc, il faut comprendre que à cause de cette absence de l'État, on peut retrouver ce genre d'organisation. Mais attention, ici, je ne suis pas en train de légitimer les actions de violence qui sont en train de se passer lorsque on doit contraindre les gens de ne pas travailler, lorsqu'on doit brûler les kiosques. Mais ici, il faut comprendre que ce que ces organisations sont en train de réclamer, c'est une réclamation de tout le monde, une réclamation de tout le peuple congolais sérieux qui ont besoin de la paix. Je venais de suivre son excellence, monsieur le gouverneur, qui demande à la population d'avoir confiance aux institutions. Je le soutiens et je suis d'accord avec lui que nous devons avoir confiance à ces institutions. Mais quelle institution? L'institution gouvernement est une institution qui, depuis 2 mois, n'existe pas. Et aujourd'hui, on est incapable de nous donner les répondants du peuple qui doivent résoudre tel ou tel autre problème. Si nous prenons l'institution parlement, on ne sait pas voter une loi en rapport avec l'article 63 qui puisse autoriser à ce que les citoyens congolais puissent aider les FARDC à défendre l'intégrité nationale toutes les fois qu'on est attaqué. On ne sait même pas voter une loi qui autorise à ce qu'il y ait l'état de siège ou l'état d'urgence au Nord Kivu pour permettre à ce que la question de massacre, les tueries, soit prise de manière particulière. Si nous prenons l'institution cour et tribunaux, il n'y a pas de procès alors qu'il y a des personnes qui ont été arrêtées comme suspects, que ce soit des camps de civils, dans le cas des militaires, dans le cas des policiers, et même dans le cas de l'ennemi, on a pu arrêter certaines personnes, mais il n'y a toujours pas de procès pour rassurer cette population. Je voudrais aussi montrer qu'il y a des risques que nous sommes en train de courir. Le premier risque, c'est au niveau même des organisateurs de ces genres d'activités. Ici, nous courons les risques de généraliser et de nous tromper d'ennemis en commençant à nous attaquer peut-être même à des personnes qui ne seraient pas directement concernées. Ici, je vois par exemple des humanitaires qui sont aussi cités, qui sont aussi la cible des manifestations, tout en oubliant également que le droit international humanitaire interdit à toute personne d'empêcher les humanitaires à atteindre leurs cibles et à les secourir. Et nous risquons de commettre encore d'autres infractions qui risqueront un jour de peser sur chacun de nous et chacun risquera de répondre devant ses responsabilités. Et donc, nous voudrions ici que le gouvernement puisse prendre la question au sérieux pour éviter ce genre de débordement, parce que ça profite plus à l'ennemi qu'à la population qui est en train de subir et d'endurer cette croix.
Alors Edgar Matesso, le gouvernement doit prendre cette question au sérieux, comme vous le dites, mais vous, comme acteur social, qu'est-ce que vous faites, société civile? Comment vous contribuez au retour de la paix? Quelle est votre contribution pour la pacification de l'Est, tout en appuyant les FARDC et même la MONUSCO qui est sur place?
Je voudrais rappeler ici, madame, que il y a dans notre magazine où nous vous avons rassuré que la population est en train de bien jouer sa partition. Les organisations de la société civile qui sont en train de jour et nuit de dénoncer tous les cas suspects, d'orienter les alertes vers les services de sécurité. Toutes les fois qu'il y a des attaques, la population a au temps opportun remonte ses alertes auprès des personnes attitrées pour pouvoir agir rapidement et permettre que la population soit protégée.
Merci Edgar Matesso. Les auditeurs sont très très nombreux à nous appeler. Monsieur le gouverneur, Karine Janzou, Kassibita, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Chabunda, au sud Kivu.
Maître David Limassandi, depuis Chabunda, dans la province du sud du Kivu. Et enfin, la démarche de ce mouvement associatif a raison d'être. Car, jour le jour, le peuple est meurtrier. Or, l'État a l'obligation de la protection de sa population. Chose qui, du reste, est irréalisable. Alors, s'attaquer aux organismes du système des Nations Unies n'est pas non plus une solution. D'où, c'est une interpellation plus aux autorités congolaises de prendre les sérieux dans la gestion de cette guerre interminable. Et enfin, au lieu et place de lancer le mandat d'amener contre ces jeunes, il serait mieux de les approcher et les apaiser, car les revendications sont nobles.
On s'excuse pour la qualité de la ligne. Karine Zanzou, comment vous répondez à cet auditeur qui nous a appelé depuis Chabunda?
Ah oui, je voudrais saluer sa lecture, parce que c'est ce que j'ai dit. À dépit de tout ce que nous connaissons comme tristesse au regard des actes de violence dans ma province, non plus nous ne pouvons pas nous permettre de continuer à amplifier la violence. Je crois que il a compris ma première intervention et j'ai toujours réitéré ça et je reviens sur ça. À dépit de tout ce qui se passe, nous avons l'obligation de regarder dans la même direction comme toutes les autres nations civilisées. On a vu à Washington le 11 septembre, l'opposition, la société civile, les deux partis républicains démocrates ont travaillé ensemble pour gagner contre les terroristes. On les voit dans d'autres pays comme le Kenya et partout ailleurs. Je crois que c'est l'appel de la conscience nationale que nous lançons aussi, que nous réitérons pour dire nous avons un ennemi commun, les groupes armés locaux et les ADF Nalu qui continuent à nous tuer à Beni, et il faut un regard orienté dans le même sens pour que la paix et la sécurité puissent revenir.
Alors, une interpellation aussi, de plus, comme le dit cet auditeur, il y a même les co-débatteurs, vos co-débatteurs qui sont revenus, c'est ça, sur ça, pour demander à l'État de prendre au sérieux cette question. On a l'impression que l'État banalise un peu cette situation.
Non, je l'ai bien dit, nous avons 7 ans de guerre intense au niveau de Beni, nous avons plusieurs années des guerres contre les groupes armés dans la province du Nord Kivu. S'il y avait une banalisation, je crois qu'on ne serait pas en ce stade. Il y a un moment, la ville de Beni, tout le monde s'est déplacé, et les ADF Nalu tués même dans la ville de Beni. Il faut savoir saluer les quelques efforts fournis par l'État congolais et par les services de sécurité de défense, en dépit évidemment de la situation aujourd'hui. Je crois que nous devons saluer la bravoure de nos FARDC. Certes, toutes les fois qu'on n'aura pas la solution, je crois qu'il y aura toujours des questionnements. Mais moi, je voudrais encourager les analyses qui vont dans le sens de voir la société civile et l'État congolais, tous les services de sécurité travailler ensemble. Toutes les fois que nous avions eu un mariage civilo-militaire avec une très bonne compréhension, vous pouvez le demander au FRDC, les résultats ont toujours été positifs. Ce qui est vrai, il nous faut encore plus d'efforts, il nous faut des efforts au niveau du Parlement pour que les services de défense aient plus de moyens. Il nous faut une mobilisation générale à ce stade à cause des effets Covid. Je suppose même qu'il faut mobiliser la population congolaise, l'État congolais, pour qu'il y ait des moyens extra-budgétaires pour l'armée. Nous n'allons pas aussi dire que, comme nous avons la guerre, l'État va démissionner dans toutes ses dimensions régaliennes. S'il y a des infractions individuelles, je l'ai répété, si chacun d'entre nous commette des infractions, nous n'allons pas dire non plus à la justice de continuer à faire son travail régalien. Je crois que c'est ce qui s'est fait aussi dans la partie de Bénin.
Boris Maelezo, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Dissiro.
De la Dissiro, province du haut où elle est, sans appuyer à l'idée des groupes de pression et des mouvements citoyens qui réclament le retour de la paix dans la région, en s'attaquant aux ONG internationales et à la MONUSCO. En fait de tout ça, il faut noter que la population est fatiguée des massacres et considère qu'elle est délaissée par l'État congolais. Elle n'arrive pas à mettre fin à la sécurité dans cette région. Trop, c'est trop. Plus de 20 ans de la sécurité, des massacres, c'est beaucoup. Même si tu es patient ou tolérant, ça va toujours te révolter. À mon avis, nos compatriotes doivent comprendre qu'en faisant des troubles ou des manifestations, vont profiter aux ennemis de la paix. Ils doivent être concentrés à coopérer avec les services de sécurité et dénoncer les complices. La désobéissance civile va toujours profiter aux ennemis car la paix demande beaucoup de moyens.
Boris Maelezo, brève réaction.
En tout cas, je partage le point de vue de notre concitoyen qui nous appelle de l'Ituri, si je ne m'abuse pas.
Dissiro.
Et moi, je dis que, en tout cas, la situation qui prévaut dans les territoires de Beni, en tout cas, il faut ne pas être un peu d'un cœur pour pouvoir ne pas être révolté par cette situation macabre. Mais la manière de réclamer le droit auprès de l'État, ce n'est pas en tout cas par violence. Mais moi aussi, je voudrais seulement dire, par exemple, à la MONUSCO et aux organismes internationaux, de pouvoir quand même se poser la question, de dire pourquoi nous sommes là. Nous sommes fatigués et la population l'a déjà exprimé. C'est pour cela que moi je lance l'appel au gouvernement congolais. Surtout quand ils sont en train de discuter le mandat des Nations Unies. Ils se disent, qu'est-ce qu'ils mettent dans ce mandat-là? Parce que moi je dis tout le mandat de prière à la création de la MONUSCO dans notre pays. En tout cas c'est la même chose, c'est du couper-coller, il n'y a rien qui change. Le mandat n'a pas été vraiment bien défini, n'a pas été bien étudié. Pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Parce que nous voyons, par exemple, dans d'autres pays où il y a les Nations Unies, par exemple, où il y a, par exemple, les opérations de maintien de la paix par l'Union africaine, vous sentez qu'il y a vraiment des opérations qui sont engagées. Ici, les Nations Unies, ils viennent, ils vous disent, je protège la population. Vous les voyez, ils sont à Beni, en ville, mais dans les profondeurs, les FRDC parfois, oui, ils appuient les FRDC, mais pas assez. Pour mériter une confiance, il faut que vous la méritiez, vous démontriez que réellement quelqu'un doit avoir confiance en vous. Mais vous êtes en train de faire tout ce qu'on ne voit pas, en tout cas qui ressemble à une protection de la population, et de l'autre côté, vous demandez que les gens croient à vous, que vous êtes là pour pouvoir les protéger. Je crois que vraiment c'est paradoxal. Moi, je demande au gouvernement congolais que le mandat des Nations Unies doit être bien et clairement défini.
Merci.
Avec des propositions qui démontrent qui fait quoi et où.
Edgar Mathès, on va prendre aussi pour vous très rapidement cette réaction qui nous vient de Kisangani, dans la province de la Tchopo.
Rémi Lokonga depuis Kisangani, dans la province de la Tchopo. La constitution de la RDC garantit à chaque citoyen congolais le droit de manifester pacifiquement pour exprimer son opinion sans troubler l'ordre public. S'attaquer à la MONUSCO, aux agences du système des Nations Unies et à des ONG internationales est une violation flagrante de la constitution. Face à l'insécurité grandissante dans la partie est du pays, il serait indispensable que le gouvernement congolais puisse prendre ses responsabilités en vue de sécuriser sa population, en améliorant les conditions de vie des militaires, en les équipant en armes et en munitions, et en traquant tous des infiltrés qui sont en train de soutenir ces groupes armés. Il faudrait aussi que la population de l'Est puisse faire confiance à son armée et à sa police, à dénoncer tous les suspects et à la MONUSCO d'appuyer efficacement le gouvernement congolais pour pacifier définitivement cette partie de la République.
Edgar Matesso, que pensez-vous de ce point de vue de Rémi Lokonga?
Oui, je suis d'accord avec notre auditeur Rémi Lokonga de Kisangani. On ne doit pas se livrer à des actes de violation des droits internationaux humanitaires parce qu'un jour on risquera de subir des poursuites. Mais au-delà de ces analyses-là, on voudrait aussi quand même souhaiter que la MONUSCO puisse s'évaluer et pouvoir exposer à l'espace public ce qu'elle estime avoir fait d'exploit pour la République démocratique du Congo en rapport avec sa mission de maintien de la paix et de stabilisation de la République démocratique du Congo. Sinon, si elle estime qu'au bout de plus de 20 ans, elle n'a pas été efficace, il y a lieu de changer de stratégie. Nous devons retenir également, comme l'a pu dire le gouverneur de province, les phares d'ici sont en train de faire quelque chose d'important, mais c'est les mêmes phares d'ici devraient comprendre qu'ils sont en train de combattre pour la République et que avec ou sans MONUSCO, ils sont à mesure de défendre les pays et ils doivent être à mesure de le démontrer sur terrain. Sinon, les conséquences seront fâcheuses. Si jamais la MONUSCO arrivait à partir, cette même population qui est en train de réclamer le départ de la MONUSCO va commencer à demander le départ des phares d'ici, de la police et du gouvernement congolais. Ça sera de la jungle. Et nous devons éviter de tomber dans ce genre de conséquences. Et on doit les prévenir avant qu'il ne soit tard.
Merci.
Et permettre à ce que le gouvernement congolais puisse prendre la situation à main et donner de la force nécessaire aux phares d'ici afin que la situation soit maîtrisée.
Caroline Zanzoukassivita, nous sommes à la fin de notre émission. Quel message vous lancez, monsieur le gouverneur, à cette population du Grand Nord, particulièrement Beni Butembo, qui vous suit en ce moment?
D'abord, je voudrais saluer la condamnation unanime de tous les intervenants en rapport avec les appels d'attaque contre les humanitaires, contre les Nations Unies, contre les institutions de la République. Je considère que ce point de vue a été écouté par la jeunesse du Nord Kivu, mais aussi vous dire que nous ne pouvons pas être fatigués de tout ce qui se passe. Nous devons plutôt, au-devant de tout ce qu'il y a comme atrocité, travailler, réfléchir, multiplier les intelligences pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions pour la restauration de la paix et de la sécurité dans notre région. Je crois aussi à la volonté exprimée par les chefs de l'État, à la volonté exprimée par les forces de défense, et je peux vous rassurer qu'ensemble, si nous regardons dans la même direction, la même vision, nous allons gagner cette guerre et les enfants de la République pourront vivre une autre ère de paix et de sécurité du développement à l'est de la République démocratique du Congo, spécialement dans le Nord Kivu.
Merci, monsieur le gouverneur. Boris Maelezo, député national honoraire, élu du territoire de Beni au Nord Kivu, votre message?
Oui, mon message toujours de dire que nous n'avons pas vraiment le droit de pouvoir réclamer nos droits, si je peux me répéter, par la violence. Mais nous avons le devoir de pouvoir demander l'État de pouvoir nous protéger. Et aussi, demander l'État à pouvoir parler avec ses partenaires pour dire que, parce que vous savez que quand la maison brise, c'est la personne, le propriétaire de la maison qui montre les voisins qui viennent l'aider, de dire voici là où le problème est. Et donc, notre gouvernement doit nécessairement discuter profondément, comme d'ailleurs notre frère Edgar Matès a dit. En tout cas, si le Parlement pouvait regarder aussi et évaluer le 20 ans de la MONUSCO et pouvoir faire vraiment des recommandations concrètes au niveau du gouvernement et aussi le gouvernement prendre ça au niveau du Conseil de sécurité, je pense qu'il est important de pouvoir les dire. Et de demander aussi à la MONUSCO pour dire le principe de déploiement des opérations de maintien de la paix dans un pays et aussi regarder le dynamisme des conflits. Il ne faut pas rester statique 20 ans après, vous n'êtes pas capable de vous adapter à la situation.
Merci Boris Maelezo, Edgar Matesso, conclusion.
conclure par l'impératif catégorique du philosophe allemand Emmanuel Kant qui dit « Agis de telle sorte que la maxime de ton action s'érige à maxime universelle. » Et même cette maxime, cet impératif catégorique se traduit en règle d'or qui dit « Ne fais jamais à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on fasse à toi. » Et ce que je dis là s'adresse à la fois à la MONUSCO, au gouvernement congolais et même aux organisateurs de toutes ces manifestations. Merci beaucoup.
Merci Edgar Matesso, Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté qui l'a réalisé. Martin Sebujangwe est à la supervision de ce programme. Merci également à Donna Madimba qui nous a aidé dans la préparation. Paul Batadiama était à la mise en onde. Présentation et coordination, Kéline Couté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.